Chapitre 11. La tour timbre. Les six duchés et les îles d'outre-mer sont unis par le sang, tant celui qu'ils ont versé entre eux que celui qu'ils partagent par les liens familiaux. Malgré l'inimitié qu'ont réveillé la guerre des pirates rouges et les attaques sporadiques des Outriliens sur nos rivages au cours des années qui l'ont précédée, chaque habitant ou presque des duchés côtiers peut affirmer avoir un cousin d'outre-mer. Et il est bien connu que les occupants de ces territoires descendent de mélange entre les deux peuples. Les documents d'époque ne laissent aucun doute sur le fait que les premiers souverains de la lignée des Loin-Voyants étaient des pirates venus des îles d'outre-mer pour piller, puis coloniser ce qui deviendrait plus tard les six duchés. De même que l'histoire du royaume fut façonnée par sa géographie, de même celle des îles d'outre-mer. Ce pays est plus rude que le nôtre. La glace règne toute l'année sur ces îles montagneuses qu'entaillent des fjords profonds et que séparent des eaux violentes. Elles paraissent vastes à nos yeux, mais la domination des glaciers n'y laisse qu'une étroite zone habitable sur le pourtour. Les rares terres arables dont disposent les hommes sur les côtes sont chiches de récolte, interdisent le développement de grandes villes et permettent tout juste l'approvisionnement de quelques bourgades. Obstacles naturels et isolement sont les traits distinctifs de cet archipel, si bien que les hommes vivent dans des villages et des cités-états où règne un esprit de farouche indépendance. Dans les temps anciens, ils étaient pirates autant par nécessité que par inclination, et ils se dépouillaient mutuellement aussi souvent qu'ils s'aventuraient sur les mers pour aller mettre à sac les côtes des six duchés. Cependant, lors de la guerre des pirates rouges, Kébal Pincru obtint par la force une brève alliance entre les clans des îles d'outre-mer. Grâce à cette union, il forma une redoutable flotte pirate, et seule la puissance destructrice des dragons des six duchés parvint à briser l'emprise impitoyable dans laquelle il tenait son peuple. Les chefs des villages outriliens ayant autrefois constaté l'efficacité d'une telle alliance, ils songèrent que le pouvoir qu'elle représentait pouvait servir à des fins autres que militaires. C'est ainsi que, durant les années de convalescence qui suivirent la guerre des pirates rouges, le Headgird fut constitué. Cette coalition de chefs outriliens connut des débuts difficiles, et son but s'arrêta tout d'abord à remplacer les relations agressives entre les îles de l'archipel par des traités commerciaux entre leurs dirigeants. C'est Harkon Sangrépé qui fit observer à ses pairs que le Headgird pouvait employer son pouvoir à normaliser les relations économiques avec les six duchés. Chronique des îles d'outre-mer, de Jauge Carne. Comme toujours, Imbre n'avait rien laissé au hasard, et son messager muet paraissait connaître parfaitement ses façons de procéder. Le lendemain de notre départ, avant midi, nous avions échangé nos montures fourbues contre deux autres dans une ferme à demi en ruine. Nous franchîmes des collines roussies par l'été et laissâmes nos nouveaux chevaux chez un pêcheur. Un petit bateau nous attendait et un équipage taciturne nous fit rapidement remonter la côte. Nous débarquâmes dans un petit port de commerce où l'on nous fournit deux autres chevaux dans une auberge délabrée. Je ne parlais pas plus que mon guide et nul ne me posa de questions. Si de l'argent changea de main, je n'en vis rien. Il vaut d'ailleurs toujours mieux ne pas remarquer ce qui doit rester secret. À dos de cheval, nous gagnâmes un autre hameau côtier où nous prîmes place à bord d'un autre bateau, au pont luisant d'écailles et aux puissants fumets de poissons. Et je compris alors que nous nous rendions à Castelserre, non par le chemin le plus court, mais par les voies les moins prévisibles. Si quelqu'un cherchait à nous repérer sur les routes qui menaient à la citadelle, il allait au-devant d'une déception. Le château de Castelserre se dresse sur un rivage inhospitalier. Grand et noir au sommet des falaises, il domine l'estuaire de la Serre. De ce fait, qui commande la forteresse commande le commerce du fleuve, ce qui explique le choix de son emplacement. Les hasards de l'histoire en ont fait le siège de la souveraineté des Loin-Voyants, et Bourg de Castelserre s'accroche au pied de ces falaises comme le lichen à la roche. La moitié de la ville est bâtie sur des appontements et des jetées. Enfant, je croyais impossible qu'elle grandisse davantage, étant donné sa situation géographique. Mais l'après-midi où nous pénétrâmes dans son port, je m'aperçus de mon erreur. L'ingéniosité de l'homme avait eu raison de la rigueur de la nature. Des passerelles montaient à présent à l'assaut des falaises, semblables aux ramifications d'une plante grimpante, et des habitations ainsi que des échoppes avaient trouvé à s'agripper dans le roc. Elles m'évoquèrent des nids d'hirondelles, et je m'étonnais en songeant aux coups furieux qu'elle devait supporter durant les tempêtes d'hiver. Des pilotis se dressaient désormais dans le sable noir et les rochers où je jouais autrefois avec Molly et les autres enfants, et soutenaient des entrepôts et des auberges à la toiture basse, aux portes desquelles on pouvait s'amarrer à marée haute. C'est ce que fit notre bateau, et je débarquai à terre sur un ponton de bois à la suite de mon guide muet. Comme l'embarcation s'éloignait, j'observais les alentours, bouche bée, pareil à un paysan qui vient à la ville pour la première fois. L'accroissement du nombre des bâtiments et l'intense circulation des barques et des bateaux indiquaient que Bourg de Castelcerf prospérait. Mais je n'arrivais pas à m'en réjouir. Je n'y voyais que la disparition des dernières traces de mon enfance. La bourgade où j'avais si longtemps redouté de revenir, tout en le souhaitant ardemment, cette bourgade n'était plus, dévorée par le port bruissant d'activité qui s'étendait devant moi. Je cherchais des yeux mon guide muet, il s'était volatilisé. Je restais encore un moment là où il m'avait laissé, mais je me doutais que je ne le reverrais pas. Il m'avait ramené à Bourg de Castelcerf. À partir de là, je n'avais plus besoin de chaperon. Humbre tenait à ce qu'aucun de ses agents ne connût tous les jalons des chemins tortueux qui conduisaient jusqu'à lui. Je pris mon petit paquetage en bandoulière et me mis en route. En m'engageant dans les rues étroites et escarpées, je me dis qu'Imbre avait peut-être même deviné que je préférerais effectuer seul cette partie du voyage. Je ne me hâtais pas, car je savais ne pouvoir contacter mon vieux maître qu'après la tombée de la nuit. J'explorais les voies et les venelles que je connaissais par cœur autrefois, et aucune ne me paraissait inchangée. C'était à croire que des étages avaient poussé sur tous les bâtiments où cela était possible. Dans certaines des rues les plus étroites, les balcons supérieurs qui se faisaient face se touchaient presque, si bien que les passants déambulaient dans un crépuscule perpétuel. Je retrouvais des auberges que j'avais fréquentées, des boutiques où j'avais marchandé, et j'aperçus même d'anciennes connaissances au visage marqué par 15 années d'expérience. Nul pourtant ne poussa d'exclamations de surprise ou de plaisir à ma vue. Étranger à la ville, je n'étais visible qu'aux yeux des gamins qui vendaient des tourtes chaudes dans la rue. J'en achetais une pour une pièce de cuivre et la mangeais en marchant. Je retrouvais tout Bourg de Castelcerf dans le goût de la sauce au poivre et des morceaux de poisson du fleuve. La chandellerie qui appartenait autrefois au père de Molly avait été remplacée par l'atelier d'un tailleur. Je n'en poussais pas la porte et préférais me rendre à la taverne où nous avions jadis nos habitudes. Elle était aussi sombre, enfumée et bondée que dans mes souvenirs. La lourde table qui trônait dans un coin portait encore les traces des gravures grossières que Kerry pratiquait dans le bois lorsqu'il s'ennuyait. Le garçon qui apporta ma bière était trop jeune pour m'avoir connu, mais à la ligne de son front, je sus qui était son père, et je me réjouis que la maison fût restée dans la même famille. La première chope en appela une deuxième, puis une troisième, et la quatrième fut vide avant que le crépuscule commence à se répandre dans les rues de la ville. Personne n'adressait la parole à l'étranger au visage fermé qui buvait seul, mais pour ma part, je tendais l'oreille. Cependant, l'affaire d'une extrême urgence qui avait poussé Humbre à faire appel à moi n'était pas connue du commun. Je n'entendis que des commérages sur les fiançailles du prince, des plaintes à propos de la guerre entre Terrilleville et la Calcette qui perturbait le négoce, et des ronchonnements sur les étranges caprices du temps. Par une nuit claire et paisible, la foudre avait frappé un entrepôt désaffecté de l'enceinte extérieure du château et en avait fait exploser la toiture. Dubitatif quant à la véracité de l'anecdote, je laissai au garçon un pourboire d'une pièce de cuivre et repris mon paquetage. La dernière fois que j'avais quitté Castelcerf, c'était sous l'aspect d'un cadavre enfermé dans un cercueil. Je ne pouvais guère y entrer de la même façon, mais je redoutais de m'approcher de la grande porte. J'étais jadis un habitué de la salle des gardes, et même si j'avais changé depuis, je ne tenais pas à courir le risque d'être identifié. Je me rendis donc à un endroit seulement connu d'Imbre et de quelques autres personnes, une issue secrète qui permettait de sortir de l'enceinte du château sans être vu, et qu'Œil de Nuit avait découverte alors qu'il n'était encore qu'un louveteau. Par cette petite brèche dans les défenses de Castelcerf, la reine Kétriken et le fou s'étaient enfuis, échappant ainsi au complot du prince royal. C'est ce même chemin que j'allais emprunter pour pénétrer dans le château. Mais quand je parvins au lieu prévu, je découvris qu'on avait réparé depuis longtemps cette faille dans les murs qui protégeaient Castelcerf, et qu'elle était désormais camouflée sous un épais buisson de ronces. Non loin de là, assis en tailleur sur un grand coussin brodé, un jeune homme aux cheveux dorés, manifestement de l'aristocratie, jouait du flutio avec une technique consommée. Comme je m'approchais de lui, il acheva sa mélodie sur une envolée de notes, puis posa son instrument. « Fou, » dis-je avec affection, mais sans grand étonnement. Il pencha la tête et fit la moue.
« Bien aimé, »
dit-il d'une voix enjôleuse, puis un grand sourire éclaira son visage. Il se dressa d'un bond et glissa son flutio dans sa chemise à ruban. De la main, il désigna son coussin.
« Heureusement que je l'avais apporté. Je me doutais que tu traînerais un peu à Bourg-de-Castelserre, mais je ne pensais pas attendre aussi longtemps. »
« Tout a changé, » répondis-je un peu bêtement.
« Comme nous, non ?»
Je sentis une note d'émotion dans l'écho de sa voix, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. À geste délicat, il remit de l'ordre dans sa chevelure qui brillait au soleil, puis ôta une feuille accrochée à ses chausses. Il désigna de nouveau le coussin.
« Prends ça et suis-moi. Dépêchons-nous, on nous attend. »
Sa façon de donner des ordres d'un air agacé imitait parfaitement l'attitude d'un petit maître de la noblesse. Il tira un mouchoir de sa manche et s'en tapota la lèvre supérieure pour effacer des traces imaginaires de transpiration. Je ne puis retenir un sourire devant son talent et son aisance à entrer dans la peau de son personnage.
« Comment allons-nous entrer ? » demandai-je. « Par la grande porte, c'est évident. Ne crains rien. J'ai fait circuler la nouvelle que Sire Doré était très mécontent de la qualité des domestiques qu'il avait embauchés à Bourg-de-Castelserre. Aucun n'a su me convenir. Aussi suis-je descendu aujourd'hui attendre un bateau qui m'amène un gaillard convenable, quoiqu'un peu rustique, recommandé par le premier valet de mon cousin issu de Germain, un certain Tom Blaireau. »
Il se remit en route. Je ramassai son coussin et lui emboîtai le pas.
« Je suis donc ton serviteur, c'est ça ? » fis-je avec un amusement mitigé. « Naturellement. C'est le camouflage idéal. Tu seras pour ainsi dire invisible à toute l'aristocratie de Castelserre. Seuls les autres domestiques t'adresseront la parole, et comme je t'ai prévu un rôle de laquais tyrannisé, écrasé de travail et mal habillé par un jeune seigneur hautain, autoritaire et insupportable, tu n'auras guère le temps de leur faire la conversation. »
Il s'arrêta soudain et se retourna vers moi. Il se prit le menton d'une main fine aux doigts fuselés et me toisa d'un air dédaigneux. Puis ses sourcils blonds se froncèrent, ses yeux s'étrécirent, et il dit d'un ton cassant.
« Et baisse le regard quand je te parle, Faquin. Je ne tolérerai pas la moindre impertinence. Tiens-toi droit, reste à ta place et n'ouvre pas la bouche sans ma permission. Suis-je assez clair ?»
Tout à fait, et je lui fis un sourire de connivence. Il continua de me toiser d'un air furieux, et puis, tout à coup, il prit une expression exaspérée.
« Fils de chevalerie, la partie est finie avant même d'avoir commencé si tu n'es pas capable de tenir ton rôle sans la moindre faille. » Pas seulement lorsque nous sommes ensemble dans la grande salle de Castelserre, mais tous les jours, à chaque instant, dès qu'il y a un risque, même infinitésimal, qu'on puisse nous voir. Je joue celui de Sire Doré depuis mon arrivée, mais je reste un nouveau venu à la cour et j'attire encore les regards. Imbre et la reine Quétricaine prêtent la main à cette imposture. Imbre, parce qu'il sent que je puis lui être utile. La reine, parce qu'elle pense sincèrement que je mérite d'être traité en seigneur.
Et personne d'autre ne t'a reconnu ? Demandai-je incrédule. Il pencha la tête.
Qu'aurait-on pu reconnaître, fils ? Ma peau blanche de cadavre et mes yeux délavés ? Mon costume de bouffon et mon visage peint ? Mes cabrioles, mes pirouettes et mes traits d'esprit insolent ?
Pourtant, j'ai su qui tu étais dès que je t'ai vu, observai-je. Un sourire chaleureux détendit ses traits.
Tout comme je t'ai identifié, et comme je t'identifierai encore, si je te rencontrais d'ici une dizaine d'existences. Mais, à part toi, bien peu de personnes en sont capables. Imbre m'a repéré grâce à son œil d'assassin, et il a obtenu une audience auprès de la reine pour que je me révèle à elle. En dehors d'eux, certains me jettent de temps en temps des regards intrigués, mais nul n'oserait aborder Sire Doré pour lui demander si, 15 ans plus tôt, il n'était pas le fou du roi subtil à cette même cour. Mon âge apparent ne correspond pas, ni la teinte de ma peau, ni mon comportement, ni ma fortune.
Mais comment peut-on être aveugle à ce point ?
Il secoua la tête en souriant de ma naïveté. Fitz, on ne m'a jamais vraiment vu. Autrefois, on ne remarquait qu'un bouffon doublé d'un phénomène de la nature. Ce n'est pas par hasard que je n'avais pas pris de nom en arrivant ici. Pour la plupart des seigneurs et gentes dames de Castelserre, j'étais simplement le fou. Ils entendaient mes plaisanteries et regardaient mes galipettes, mais moi, ils ne me voyaient jamais vraiment. Il poussa un petit soupir, puis m'observa d'un air pensif. « Toi, tu m'as donné un nom, le fou, et tu m'as vu. Tu as soutenu mon regard quand les autres, désorientés, détournaient le leur. » Le bout de sa langue pointa un instant entre ses lèvres. « T'es-tu jamais douté de l'effroi que tu as suscité en moi ? Je m'apercevais tout à coup que tous mes subterfuges ne résistaient pas à l'examen d'un petit garçon. « Tu n'étais toi-même qu'un enfant ?» répondis-je mal à l'aise. Il eut une hésitation, puis, sans infirmer ni confirmer ma remarque, il reprit. « Deviens mon fidèle serviteur, Fitz. Sois Tom Blaireau à chaque seconde de chaque journée que tu passeras à Castelserre. C'est seulement ainsi que tu pourras nous protéger tous les deux. Et c'est le seul masque sous lequel tu pourras être utile à Imbre. » À propos, qu'attend-il de moi précisément ? Mieux vaut que tu l'entendes de sa bouche que de la mienne. Bien, le soir tombe. Si Bourg de Castelserre a grandi et changé, Castelserre aussi, et si nous essayons d'y entrer à la nuit, on risque de nous refouler. En effet, le temps avait passé pendant notre conversation, et la longue journée d'été tirait à sa fin. Je suivis le fou qui nous ramena près de la route conduisant à la grande porte du château. Nous demeurâmes à l'abri d'un bosquet en attendant qu'un marchand de vin passe un tournant et disparaisse. Puis le seigneur doré se dirigea vers la forteresse avec son humble serviteur, Tom Blaireau, qui le suivait à pas lourds, le coussin brodé de son maître sous le bras. À la porte, on le laissa passer sans lui poser de questions, et j'entrai à sa suite sans attirer l'attention. Les gardes de veille portaient l'uniforme bleu de Castelserre, et sur leur pourpoint était cousu le blason au cerf bondissant, emblème des loin voyants. De façon inattendue, une profonde émotion me saisit à la vue de ces petits détails. Je battis des paupières, puis m'éclaircis la gorge, tout en m'essuyant les yeux. Le fou eut la délicatesse de ne pas se retourner. Castelserre s'était modifié à l'instar de la ville qui s'accrochait à ses falaises, et dans l'ensemble, j'approuvais ces transformations. Nous passâmes devant des écuries remises à neuf et agrandies. La terre battue, balafrée d'ornières boueuses, avait laissé la place à des pavés, et, bien que le château fût occupé par une population plus nombreuse que dans mes souvenirs, il paraissait plus propre et mieux entretenu. Était-ce le résultat de l'application par Ketriken de la discipline montagnarde ou simplement celui de la paix qui régnait dans le royaume? Pendant toutes les années où j'avais vécu à Castelserre, le pays avait été en proie, d'abord aux attaques éclairs des Outriliens, puis à une guerre déclarée contre eux. Le retour d'un calme relatif avait amené une reprise des échanges commerciaux, et pas seulement avec les pays situés au sud des six duchés. Nous avions, avec les îles d'outre-mer, un aussi long passé de relations de négoces que de conflits, et à mon arrivée au port de Castelserre, j'avais remarqué, amarrés au quai, des bateaux outriliens à voile et à rame. Nous entrâmes par la grande salle, Sire Doré marchant d'un pas impérieux, tandis que je me hâtais à sa suite, les yeux baissés. Deux dames l'arrêtèrent un instant pour le saluer, et je crois que c'est alors que j'eus le plus de mal à rester dans mon rôle de serviteur. Tandis qu'autrefois le fou inspirait le trouble, voire la franche aversion, Sire Doré se voyait accueilli avec force battement d'éventail et de cils. Il charma ses auditrices par toutes sortes de compliments élégamment troussés sur leurs robes, leurs coiffures et le parfum qu'elles portaient. Elles manifestèrent leur réticence quand il leur annonça qu'il devait les quitter et leur assura qu'il lui répugnait tout autant de les abandonner. Mais il devait expliquer ses devoirs à un nouveau domestique, et elle savait certainement quelle corvée fastidieuse c'était. On ne trouvait plus de bon serviteur, et bien que celui qui l'accompagnait lui eût été chaudement recommandé, il avait déjà fait des preuves de sa lenteur d'esprit et de son affreuse rusticité. Mais baste, il fallait faire contre mauvaise fortune bon cœur, et il espérait jouir du plaisir de leur compagnie le lendemain. Il avait l'intention de se promener dans les jardins de Thym après le petit déjeuner. Peut-être aurait-elle envie de se joindre à lui. Elles répondirent qu'elles en seraient enchantées, naturellement, et après plusieurs autres échanges d'amabilité, nous pûmes reprendre notre chemin. On avait affecté au seigneur doré des appartements dans la partie ouest du château. Du temps du roi subtil, on les considérait comme les moins attrayants, car ils donnaient sur les piémonts auquel s'adosse la citadelle et ne voyait que le soleil couchant, alors que les suites de l'Est avaient vu sur la mer et le levant. Ils étaient aussi meublés de façon plus simple et on les réservait à la petite noblesse. Depuis, leur statut s'était peut-être amélioré, ou bien le fou avait dépensé sans compter, car lorsque je le suivis après avoir ouvert devant lui une lourde porte de chêne, je me trouvais devant une pièce où le goût le disputait à la qualité. Vert profond et brun somptueux dominaient dans les épais tapis et les fauteuils au rembourrage opulent. Par l'ouverture d'une porte, j'aperçus un vaste lit aux oreillers et aux édredons rebondis, et aux rideaux si épais que, même par l'hiver le plus noir, aucun vent coulis ne devait parvenir jusqu'aux dormeurs. Comme nous étions en été, les lourdes tentures étaient maintenues ouvertes par des cordons ornés de glands, et un voile de dentelle suffisait à tenir les insectes volants à distance. Négligemment entrebâillés, des coffres et des penderies sculptées laissaient voir une telle quantité de vêtements qu'ils menaçaient à tout moment de les dégorger dans la pièce. L'ensemble donnait une agréable impression de désordre luxueux, tout à fait à l'opposé du souvenir que je gardais de la chambre qu'occupait jadis le fou, en haut d'une tour, où chaque objet était disposé dans un souci minutieux d'esthétique. Tandis que je refermais la porte sans bruit, Sire Doré se laissa tomber dans un fauteuil éclairé, comme par hasard, par un dernier ray de soleil qui traversait la haute fenêtre. Joignant ses mains élégantes devant lui, il appuya sa tête contre le capiton, et je pris soudain conscience que la position de son siège et sa propre pose répondaient à une mise en scène soigneusement calculée. La pièce tout entière, avec son déploiement de richesse, était un écrin destiné à mettre en valeur sa beauté dorée. Chaque teinte, chaque meuble et son arrangement visaient uniquement à ce but. En cet instant, à l'emplacement qu'il avait choisi, il baignait dans l'aura couleur de miel du soleil couchant. Je détournai le regard pour observer la disposition des chandelles, l'orientation des fauteuils. Tu t'intègres à cette pièce comme le personnage d'un tableau dont le décor a été soigneusement composé. Il sourit, et le plaisir manifeste qu'il prit à ce commentaire confirma mes propos. Puis, il se leva sans plus d'effort qu'un chat, et, avec des gestes coulés du bras et de la main, il désigna chacune des portes de la pièce. Ma chambre, les lieux d'aisance, mon étude. Cette dernière était close comme la précédente. « Et ta chambre, Tom Blaireau ?» Je ne demandais pas à voir l'étude. Je connaissais son besoin de solitude. J'allais ouvrir la porte qui donnait sur mon logement et jeter un coup d'œil dans la petite pièce obscure. Il n'y avait pas de fenêtre. Comme ma vue s'accommodait à la pénombre, je distinguais un lit de camp étroit, un petit coffre et une table de toilette sur laquelle étaient posées une chandelle et son bougeoir. C'était tout. Je me retournai vers le fou et lui adressait un regard interrogateur. Le seigneur Doré, dit-il avec un sourire forcé, est un personnage superficiel et intéressé. Il a de l'esprit, une langue vive, il se montre tout à fait charmant avec ses pairs et ne prête aucune attention à la roture. Ta chambre est le reflet de cette nature. Pas de fenêtre, pas de cheminée. Comme dans la plupart des logements des domestiques à cet étage, celui-ci présente cependant un avantage très remarquable sur la majorité des autres. Je scrutai à nouveau la pièce. Je ne vois rien de particulier. C'est voulu. Viens. Et me prenant par le bras, il m'entraîna dans la petite chambre sombre et referma la porte derrière nous. Nous nous retrouvâmes aussitôt dans l'obscurité la plus totale. Il murmura à mon oreille. N'oublie jamais que la porte doit être close pour que ça fonctionne. Par ici. Donne-moi ta main. J'obéis. Et il guida mes doigts sur la surface rugueuse du mur contigu à celui de la porte. « Est-il nécessaire que nous restions dans le noir ?» demandai-je. « Allumer des bougies nous aurait fait perdre du temps. En outre, ce que j'ai à te montrer n'est pas visible. Ce n'est perceptible qu'au toucher. Tiens, tu as senti ?»« Je crois. » Le bout de mes doigts avait reconnu un très léger décrochement dans le mur. Trouve un moyen pour t'en rappeler l'emplacement exact. Encore une fois, j'obéis, et je constatai que l'irrégularité se situait à 6 empans environ de l'angle du mur et à hauteur de mon menton. Et maintenant, appuie doucement. Il n'y faut guère de force. Je poussai sur la pierre, que je sentis s'enfoncer imperceptiblement. Il y eut un petit cliquetis, mais il ne provenait pas du mur devant moi. Je l'entendis dans mon dos. « Par ici, » me dit le fou, et toujours dans le noir, il me conduisit jusqu'à la paroi opposée. À nouveau, il guida ma main sur la maçonnerie et m'ordonna d'appuyer. L'obscurité s'écarta sur des gonds huilés, la façade de pierre s'ouvrant sous ma poussée.
« Pas un bruit, » fit le fou d'un ton approbateur. « On a dû graisser le mécanisme. »
Je battis des paupières tandis que mes yeux s'habituaient à la lueur indistincte, loin au-dessus de nous. Peu à peu, j'arrivais à discerner d'un côté un escalier très étroit qui montait le long du mur de la chambre, et de l'autre, un couloir tout aussi exigu qui se perdait dans les ténèbres en suivant les décrochements de la paroi.
« Je crois qu'on t'a de temps, »
déclara le fou en reprenant son ton d'aristocrate plein de morgue.
« Sire Doré lui aussi est attendu, mais par une compagnie fort différente. Je te dispense de tes devoirs de valet pour ce soir du moins. Tu peux disposer, Tom Blaireau. »«
Merci, mon maître, » répondis-je d'un ton faussement servile. Je tendis le cou pour examiner les marches. Elles étaient en pierre et avaient été manifestement intégrées au mur lors de la construction même du château. La lueur grise qui les éclairait faiblement évoquait la lumière du jour plus que celle d'une lampe. Je sentis la main du fou toucher mon bras. De sa voix habituelle, il dit « Je laisserai une chandelle allumée dans la chambre. » Il serra mon épaule avec affection. «
Et bienvenue chez toi, fit ce chevalerie loin-voyant. »
Je me tournai vers lui. « Merci, fou. » Nous échangeâmes un hochement de tête étrangement solennel, puis je me mis à gravir l'escalier. Au troisième palier, j'entendis un cliquettement derrière moi et je jetai un coup d'œil au bas des marches. La porte s'était refermée. Ma montée dura un temps non négligeable avant que l'escalier ne tourne et que je ne distingue la source de la lumière. D'étroites ouvertures dans le mur, moins larges encore que des meurtrières, laissaient passer quelques doigts du soleil couchant. Son éclat allait diminuant et je me rendis compte soudain qu'à sa disparition derrière l'horizon, je me retrouverais dans l'obscurité absolue. À cet instant, j'arrivais à un croisement de couloirs. En vérité, le labyrinthe de galeries, d'escaliers et de tunnels qu'Imbre avait à sa disposition dans les entrailles du château de Castelserre dépassait en étendue tout ce que j'avais imaginé. Je fermais les yeux et tâchais de visualiser le plan de la forteresse. Après un instant d'hésitation, je choisis une direction et poursuivis mon chemin. Tout en marchant, je percevais de temps en temps des voix. De petits trous permettaient d'observer et d'écouter ce qui se passait dans l'intimité de certaines chambres et de certains salons, tout en laissant pénétrer des raies de lumière dans de longues portions de couloirs. Un tabouret qui n'avait pas servi depuis longtemps à en juger par la poussière qu'il recouvrait trônait seul dans une alcôve. Je m'assis, et par une fente étroite, je vis une salle d'audience privée que je reconnus pour y être souvent entré à l'époque où je servais le roi subtil. À l'évidence, le poste d'observation où je me trouvais se camouflait derrière les magnifiques boiseries qui encadraient l'âtre de la pièce. Muni de ce point de repère, je repartis d'un pas plus vif. Enfin, je vis une lueur jaunâtre au loin dans le passage secret. Pressant l'allure, j'arrivai à un tournant où je découvris une grosse bougie qui brûlait dans un récipient de verre. J'en aperçus une seconde tout au bout d'une autre section du couloir, et dès lors, les lumignons me montrèrent le chemin jusqu'à un escalier très raide, en haut duquel je pénétrai dans une petite pièce, toute en pierre, et percée d'une porte en face de moi. Je poussai le battant, et émergeant derrière un casier à bouteilles, j'entrai dans la salle secrète d'Imbre. Je la parcourus d'un œil neuf. Il ne s'y trouvait personne, mais le feu réduit qui crépitait dans l'âtre et la table garnie me confirmèrent que j'étais bel et bien attendu. Comme autrefois, le grand lit croulait sous les couvre-pieds, les coussins et les fourrures, mais, à en juger par le réseau complexe de toiles d'araignée suspendues entre les tentures poussiéreuses, il n'avait pas servi depuis longtemps. Imbre travaillait toujours dans la salle, mais il n'y dormait plus. Je passais devant les étagères chargées de manuscrits et d'objets à l'usage indéfini pour me rendre dans le coin atelier de la vaste pièce. Il arrive parfois que tout paraisse plus petit quand on revient, adulte, dans des lieux qu'on a connus enfant. Ce qui relevait du mystère et du domaine exclusif des grandes personnes semble tout à coup banal et insipide à l'œil mature. Tel n'était pas le cas de l'atelier d'Imbre. Je restais sensible à l'envoûtement des petits récipients soigneusement étiquetés de son écriture ferme des casseroles noircies et des mortiers maculés, des simples répandus sur la table et des odeurs qui imprégnaient l'air. Je pratiquais le vif et l'art, mais les étranges alchimies auxquelles se livrait Humbre constituaient une magie que je n'avais jamais possédée à fond. Chez lui, je demeurais un simple apprenti qui ne connaissait que les rudiments du savoir complexe de son maître. J'avais néanmoins retenu quelques enseignements de mes voyages, et je sus ainsi que le bol peu profond, au vernis brillant et couvert d'un linge servait à la divination par l'eau. J'en avais vu de semblables utilisés par des voyants en Chalcède. Je songeais à la nuit où Humbre m'avait tiré d'un sommeil d'ivrogne pour m'annoncer que les pirates rouges attaquaient Finbay. Le temps m'avait manqué alors pour lui demander d'où il tenait ce renseignement. Et j'avais toujours supposé qu'il avait appris la nouvelle par un oiseau messager. À présent, je n'en étais plus si sûr. La cheminée de travail était froide, mais plus propre que dans mes souvenirs. Qui était le nouvel apprenti d'Humbre? Aurais-je l'occasion de faire sa connaissance? Le bruit d'une porte qui se ferme doucement coupa court à mes interrogations, et je me retournai. Humbre tombe étoile se tenait près d'un casier à manuscrit. Au même instant, je pris conscience que la salle ne comportait aucune issue visible, détail que je n'avais jamais remarqué. Jusque dans son antre secret, Humbre s'entourait donc d'illusions. Il m'adressa un sourire chaleureux, quoique là.
« Te voici enfin ! Quand j'ai vu Sire Doré descendre dans la grande salle avec un air ravi, j'ai compris que je te trouverais ici. » « Ah, Fitz, tu ne peux imaginer à quel point je suis soulagé de te voir. »
Je lui rendis son sourire. De toutes les années que nous avons passées ensemble, je ne me rappelle pas une fois où vous m'ayez réservé un accueil plus inquiétant.
« Les temps sont inquiétants, mon garçon. Viens, assieds-toi et mange. Nous réfléchissons toujours mieux devant un repas. J'ai beaucoup à t'apprendre, autant que tu m'écoutes le ventre plein. »
« Votre messager s'est en effet montré fort réservé, » répondis-je en prenant place à la table, petite, mais bien garnie de fromage, de pâtisserie, de viande froide, de fruits qu'on devinait mûrs rien qu'à leur parfum, et de pain aux épices. Il y avait aussi du vin et de l'eau-de-vie, mais Humbre se servit de la tisane d'une bouilloire en terre qu'il tenait au chaud près du feu. Je tendis la main pour me servir moi aussi, mais il me retint d'un geste.
« Je vais remettre de l'eau à chauffer. »
dit-il, et il accrocha une autre bouilloire au-dessus des flammes. J'observai le pli de sa bouche quand il but la sombre décoction à petite gorgée. Il ne parut pas y prendre plaisir, et pourtant, quand il eut vidé sa tasse, il se laissa aller contre le dossier de sa chaise avec un soupir de satisfaction. Je gardai mes réflexions pour moi. Comme je remplissais mon assiette, Humbre déclara
« Mon messager t'en a dit autant qu'il en savait. » C'est-à-dire rien. Le plus gros de mon travail consiste à maintenir le secret sur l'affaire. Ah, par où commencer? C'est difficile, car j'ignore l'origine de la situation.
J'avalai une bouchée de pain et de jambon. Expliquez-moi quel est le cœur du problème, nous pourrons ensuite remonter à sa source. Je lus le trouble dans ses yeux verts.
Très bien.
Il s'apprêta à poursuivre, hésita, puis nous servit de l'eau-de-vie. En déposant une coupe devant moi, il dit
« Le prince de Voir a disparu. Nous pensons qu'il a peut-être fait une fugue. Dans ce cas, on l'a probablement aidé. On peut aussi envisager un enlèvement, mais la reine et moi ne croyons guère à cette possibilité. » Voilà.
Il se redressa pour voir ma réaction. Il me fallut un petit moment pour mettre de l'ordre dans mes pensées. Comment cela a-t-il pu se produire? Qui soupçonnez-vous? Depuis combien de temps est-il absent?
Humbre leva la main pour endiguer mon flot de questions. On ne l'a plus vu depuis 6 jours et 7 nuits, en comptant ce soir, et je doute qu'il réapparaisse avant le matin, même si rien ne me ferait plus plaisir. Comment c'est arrivé? Ma foi, loin de moi l'idée de critiquer ma reine, mais j'ai souvent du mal à souscrire à ses coutumes de montagnarde. Depuis l'âge de 13 ans, le prince a le droit de sortir du château et de son enceinte comme bon lui semble. La reine considère apparemment qu'il est dans son intérêt d'apprendre à connaître son peuple sur un pied d'égalité. Et je dois avouer qu'à une époque, cette décision m'a paru judicieuse, car les gens se sont pris d'affection pour lui. J'ai alors songé qu'il faudrait le faire accompagner par un garde, ou du moins par un précepteur musclé. Mais Ketriken, tu ne l'as peut-être pas oublié, peut se montrer aussi inflexible qu'une pierre, et elle a eu le dernier mot. Le prince sortait de la citadelle et y entrait à son gré, et les gardes avaient l'ordre de le laisser passer.
L'eau bouillait. La réserve de tisane d'imbre n'avait pas changé de place, et il ne dit rien quand je me levais pour préparer mon infusion. Il semblait occupé à rassembler ses pensées, et je ne l'interrompis pas, car les miennes elles-mêmes tournaient en tous sens, comme un troupeau de moutons affolés. « Il est peut-être mort à l'heure qu'il est, » dis-je sans le vouloir, et je regrettais aussitôt de ne m'être pas plutôt mordu la langue quand je vis l'expression bouleversée d'Imbre.
« Peut-être, oui, » fit le vieillard. « C'est un garçon vaillant et en bonne santé, qui ne refuserait sans doute pas un défi. Sa disparition ne résulte pas obligatoirement d'un complot, mais peut-être d'un simple et banal accident. J'y ai songé. J'ai à ma disposition un ou deux hommes discrets que j'ai envoyés explorer le pied des falaises et les ravines les plus dangereuses où le prince aime chasser. Cependant, je pense que s'il s'était blessé, sa Marguette, sa chatte de chasse, serait revenue au château. Mais avec un félin, on n'est jamais sûr de rien. Un chien reviendrait, je pense, mais un Marguet pourrait aussi bien retourner à l'état sauvage. Quoi qu'il en soit, et aussi déplaisante que soit cette éventualité, j'ai fait chercher un cadavre, mais en pure perte.
Une Marguette. J'écartais le souvenir qui s'était brutalement présenté à mon esprit, et je demandais. Vous dites qu'il aurait fugué, ou peut-être qu'on l'aurait enlevé. Quel motif voyez-vous à l'appui de ces deux possibilités?
Pour la première, le fait que c'est un jeune adolescent qui s'efforce d'apprendre à devenir un adulte dans une cour qui ne lui facilite pas la tâche. Pour la seconde, le fait que c'est un prince. Qu'on vient de le fiancer à une princesse étrangère et que des rumeurs le disent posséder du vif. Autant de raisons qui peuvent inciter plusieurs factions à vouloir le mettre dans leur poche ou l'éliminer.
Il se tut un long moment pour me permettre de digérer ce qu'il venait de m'apprendre, mais plusieurs jours n'y auraient pas suffi. Le profond malaise que je ressentais devait se lire sur mon visage, car Imbre finit par déclarer d'une voix douce.
« À notre avis, même s'il a été victime d'un enlèvement, c'est vivant qu'il a le plus de valeur pour ses ravisseurs. »
Je retrouvai mon souffle, et la gorge desséchée, je demandais. Quelqu'un a-t-il revendiqué sa détention? Exigé une rançon?
Non.
Je me reprochais amèrement de ne pas m'être tenu au courant de les situations politiques des six duchés. Cependant, ne m'étais-je pas juré de ne plus jamais m'en mêler? Cette promesse m'apparut soudain comme la résolution irréaliste d'un enfant de ne plus jamais se laisser surprendre par la pluie. D'une voix basse, car je me sentais fautif, je dis. Il va falloir m'instruire, Imbre, et vite. De quelle faction parlez-vous? Quel intérêt aurait-elle à tenir le prince sous leur coupe? Qui est cette princesse étrangère? Et je faillis m'étrangler sur cette dernière question. Qu'est-ce qui peut laisser croire que le prince devoir a le vif?
Le fait que tu l'avais,
répondit Imbre, laconique. Il prit à nouveau sa bouilloire et remplit sa tasse. Le liquide s'était encore assombri, et cette fois je sentis un parfum de mélasse où perçait une pointe d'âcreté. Il but son infusion cul sec et la fit promptement suivre d'une lampée d'eau-de-vie. Ses yeux verts se plantèrent dans les miens, et il attendit ma réaction. Mais je me tus. Certains secrets n'appartenaient encore qu'à moi seul. Du moins, je l'espérais.
« Tu avais le vif, » reprit-il. Certains soutiennent que tu le tenais de ta mère inconnue. Et, qu'Eda me pardonne, j'ai moi-même encouragé cette opinion à se répandre. Mais d'autres désignent le passé. Le prince Pi et plusieurs autres rejetons insolites de la lignée des loin-voyants pour dire « Non, la tare est là, à la racine, et le prince de voir en est insurgent. »
Mais le prince Pi est mort sans descendance. De voir n'est pas de son sang. Qu'est-ce qui peut faire croire que le jeune prince a le vif? Imbre me regarda en plissant les yeux.
« Tu joues au chat et à la souris avec moi, mon garçon. »
Il posa ses mains sur le bord de la table, veines et tendons saillants comme des cordes, et il se pencha vers moi pour me demander d'un ton cassant.
« Crois-tu que je n'ai plus toute ma tête, Fitz ? Je puis t'assurer que ce n'est pas le cas. Je vieillis peut-être, mon garçon, mais j'ai l'esprit plus effilé que jamais, je te le garantis !»
Je n'en avais pas douté jusque-là, mais cet éclat ressemblait si peu à Imbre que je me reculais involontairement contre le dossier de ma chaise et le dévisageais avec inquiétude. Il dut interpréter correctement mon expression, car il se rassit et laissa ses mains retomber sur ses genoux. Quand il reprit la parole, c'était mon vieux mentor qui s'adressait à moi.
« Astéry t'a fait part de l'incident du ménestrel lors de la fête du printemps. Tu es au courant du malaise qui règne chez les vifiers du pays, et tu as entendu parler de ceux qui se font appeler les fidèles du prince Pi. On les désigne aussi sous une appellation moins édulcorée. Les adorateurs du bâtard. »
Il me lança un regard sinistre, mais sans me laisser le temps d'absorber le choc, il chassa d'un geste mon effarement.
« Peu importe le nom qu'ils se donnent, ils ont trouvé une nouvelle arme. Ils dénoncent les familles où règne le vif. J'ignore s'ils cherchent ainsi à démontrer à quel point le vif est répandu ou bien s'ils visent l'élimination de leurs semblables quand ils refusent de s'allier à eux. On trouve dans les lieux publics des placards ainsi rédigés. Le fils de Gire le Tanneur a le vif. Son animal de lien est un mâtin roux. Ou bien Dame Amen a le vif. Son animal de lien est son émerillon. Chaque affiche est signée de leur emblème, un cheval pie. Dernièrement, la cour elle-même a été gagnée par ses spéculations sur qui a le vif et qui ne l'a pas. Certains nient les rumeurs à leur propos, d'autres s'enfuient et se réfugient sur leurs terres s'ils en possèdent, ou s'expatrient dans quelque village lointain et changent de nom s'ils n'ont pas de propriété. Si ces placards disent vrai, il y a beaucoup plus de gens doués de la magie des bêtes que tu ne l'aurais supposé toi-même. À moins que...
Il pencha la tête vers moi.
« Tu n'en saches plus long que moi sur la question. »«
Non, » répondis-je d'un ton mesuré. « Non, je n'en sais pas davantage que vous. » Je m'éclaircis la gorge. Je ne savais pas non plus qu'Astéry vous faisait des rapports aussi complets sur moi. Il joignit les mains sous son menton.
« Je t'ai blessé. »
« Non, » je mentais. « Non, ce n'est pas ça, c'est plutôt que... »
« Quel imbécile je fais ! J'ai eu beau faire, je suis devenu un vieux ronchon susceptible. Je froisse ton amour-propre, tu fais semblant de rien pour me donner le change, et quand j'ai besoin d'une aide que toi seul peux m'apporter, je te repousse. Je perds tout discernement au moment où il m'est le plus nécessaire. »
Son regard croisa soudain le mien, et j'y lus une profonde horreur. Le vieillard se ratatina devant moi, et sa voix ne fut plus qu'un murmure hésitant.
« Fitz, je suis terrifié pour le petit. Terrifié. L'accusation qu'on porte contre lui n'a pas été placardée sur une place publique. Elle nous est parvenue sous la forme d'un message cacheté, sans signature, sans même l'emblème des fidèles du prince Pi. « Faites justice, disait-il, et nul ne saura jamais rien. Dédaignez cet avertissement, et nous prendrons les mesures qui s'imposent. » Mais comme on ne nous indiquait pas clairement ce qu'on voulait de nous, que pouvions-nous faire? Nous n'avons pas dédaigné la missive, nous avons simplement attendu d'en apprendre davantage. Là-dessus, le prince a disparu. La reine redoute que... Non, les craintes de la reine sont trop nombreuses pour que je t'en donne le détail, mais ce qu'elle redoute par-dessus tout, c'est qu'on le tue. Cependant, ce que je crains pour ma part est bien pire. Ce n'est pas tant qu'on le tue, mais qu'on le réduise à ce que tu étais quand Burik et moi t'avons sorti de ta fausse tombe. Une bête à figure humaine.
Il quitta brusquement la table. J'ignore s'il avait honte de se voir acculé à pareille terreur à cause de l'affection qu'il portait au jeune prince, ou bien s'il cherchait à m'épargner le rappel de mon état d'alors. Si c'était le cas, il aurait pu s'éviter cette peine. J'avais appris à refouler efficacement ses souvenirs. Il resta un moment à regarder fixement une tapisserie, l'esprit ailleurs, puis il s'éclaircit la gorge et quand il me fit face, j'avais devant moi le conseiller de la reine.
« Le trône des loin-voyants n'y résisterait pas, » fit ce chevalerie.
Il y a trop longtemps qu'un roi nous fait défaut. Même si la preuve a été faite que le petit a le vif, je pense que je parviendrai à retourner la situation et à la présenter sous un jour favorable. Mais si on le montrait à ces ducs transformés en animal, tout serait perdu. Et, au lieu de devenir les 7 duchés, le royaume régresserait jusqu'à n'être plus constitué que de cités-états en lutte les unes contre les autres et séparés par des territoires où la loi n'existerait plus. Ketriken et moi avons effectué un parcours long et exténuant, mon garçon, pendant ton absence, mais ni elle ni moi ne pouvons rassembler sur nos personnes l'autorité indiscutable dont jouirait un véritable souverain de la lignée des loin voyants. Au cours des ans, nous avons affronté une mère capricieuse d'alliance, d'abord avec tel duc, ensuite avec tel autre, pour obtenir une majorité qui nous permettait de passer une nouvelle saison. Le but est si proche aujourd'hui, si proche. Dans 2 ans, Devoir se dépouillera de son titre de prince pour prendre celui de roi servant. 1 année de plus, et je pense pouvoir convaincre les ducs de lui reconnaître la souveraineté pleine et entière. Alors, je crois que nous pourrons nous sentir en sécurité pour quelque temps. Quand le roi Iod des montagnes mourra, Devoir héritera de sa charge. Le poids de ce royaume viendra s'ajouter au nôtre. Et si le mariage que Ketriken a négocié avec le Hedgurd des îles d'outre-mer vient à bien, nous aurons des alliés dans les mers du Nord. Le Hedgurd? Une assemblée de nobles. Les Outriliens n'ont pas de roi, pas de chef suprême. Pour leur tradition, Kebal Pincru était une anomalie. Mais ce fameux Hedgurd compte un certain nombre d'hommes influents, et l'un d'eux, Harkon Sangrépé, a une fille. Il y a eu échange de messages, et cet enfant et Devoir semblent bien assortis. Le Hedgurd a donc envoyé, pour sceller officiellement leur fiançailles, une délégation qui ne saurait tarder. Si le prince Devoir répond aux attentes des représentants, les accordailles seront confirmées au cours d'une cérémonie qui aura lieu à la nouvelle lune. Imbre se tourna vers moi en secouant la tête. Je crains qu'une telle alliance ne soit prématurée. Béarn et Ripon la voient d'un mauvais œil. Ils trouveraient sans doute leur avantage à une reprise du commerce avec les Outriliens, mais leurs blessures sont encore trop récentes. Mieux vaudrait, à mon sens, attendre encore 5 ans que les échanges se développent à leur rythme entre les deux pays et que Devoir prenne les rênes des 6 duchés. Alors il serait temps de proposer une alliance. Non pas un mariage avec mon prince, mais une union de moindre importance avec la fille d'un de nos ducs, ou peut-être un fils cadet. Mais ce n'est là que mon opinion. Je ne suis pas la reine, et la reine a fait savoir sa volonté. Elle proclame qu'elle verra la paix s'instaurer durant sa vie. Elle court trop de lièvres à la fois, à mon sens. Elle veut agréger le royaume des montagnes aux 6 duchés existants pour en faire un 7e, et placer en même temps une Outrilienne sur notre trône. Non, c'est excessif et c'est trop tôt. J'avais presque l'impression qu'il avait oublié ma présence. Il exprimait tout haut ses pensées devant moi avec un laisser-aller qu'il ne s'autorisait pas du temps où le roi subtil régnait. À cette époque, il ne se serait pas permis de mettre en doute la moindre décision de son souverain. Considérait-il notre reine d'origine étrangère comme plus faillible que subtile, ou bien me jugeait-il désormais assez mûr pour me confier ses inquiétudes? Il reprit place sur sa chaise en face de moi, et de nouveau, nos regards se croisèrent. À cet instant, je vis clairement la situation, et un frisson glacé me parcourut. Imbre n'était plus l'homme qu'il avait été. Il avait vieilli et, même s'il s'en défendait, son esprit vif avait désormais peine à écarter les voiles flottants de ses années. Son influence ne reposait plus que sur la structure du réseau d'espionnage qu'il avait laborieusement mis en place au cours du temps, et les drogues mystérieuses qu'il préparait dans sa bouilloire ne suffisaient pas à empêcher la façade de se fissurer. J'eus l'impression que je venais de rater une marche dans le noir, et je mesurais soudain dans quels abîmes et à quelle vitesse le naufrage de la vieillesse pouvait nous entraîner tous. Je tendis la main en travers de la table pour la poser sur les siennes, et aussi absurde que cela paraisse, je m'efforçais de lui transmettre ma force. J'accrochais son regard et tentais de lui rendre confiance. Commencez par le soir de sa disparition, fis-je à mi-voix, et dites-moi tout ce que vous savez.
parce qu'aujourd'hui, au bout de tant d'années, c'est moi qui dois te faire mon rapport et te laisser tirer les conclusions. »
Je crus que je l'avais blessé, mais son sourire me rassura.
« Ah, Fitz, merci. Merci, mon garçon. Quel plaisir de t'avoir à mes côtés après si longtemps. Alors, le soir de la disparition du prince de Voir. Très bien, laisse-moi rassembler mes souvenirs. »
Pendant un moment, ses yeux verts prirent une expression lointaine. Et je craignis que son esprit ne se fût mis à vagabonder sans but. Mais c'est un regard perçant qu'il reporta sur moi tout à coup.
« Je vais remonter un peu plus loin. Nous avions eu une querelle le matin, le prince et moi. Enfin, querelle n'est pas le terme exact. Devoir est trop bien élevé pour se disputer avec un aîné. Mais je l'avais sermonné et il s'était mis à bouder, tout comme toi autrefois. Je te le jure, parfois, quand je vois cet enfant, j'ai l'impression de me trouver en face de toi. C'est étonnant. »
Et il poussa un léger soupir.
« Bref, il s'est produit un petit heurt entre nous. Il est venu prendre sa leçon d'art du matin. Mais il n'arrivait pas à se concentrer au cerne sous ses yeux. J'ai compris qu'il avait encore passé une partie de la nuit à courir en compagnie de son marguet. Et je l'ai averti sans douceur que, s'il était incapable de réfréner ses envies afin de se présenter frais et dispo à ses leçons, on pouvait s'en charger pour lui. On pouvait reléguer son marguet aux écuries avec les autres animaux de course, si cela devait assurer au prince de bonnes nuits de sommeil. Cette perspective ne lui souriait pas, naturellement. Il était inséparable de ce félin depuis qu'on le lui avait offert. Mais il n'a pas parlé de son marguet ni de ses excursions nocturnes, peut-être parce qu'il me croit moins bien renseigné à ce sujet que je ne le suis. Non, il s'en est pris aux leçons et à son précepteur en affirmant qu'il n'était pas doué pour l'art et qu'il n'arriverait jamais à rien dans ce domaine, même s'il dormait à point fermé toutes les nuits. Je lui ai répondu de ne pas dire de bêtises, de ne pas oublier qu'il était un loin voyant et qu'il avait l'art dans le sang. Il a eu le front de répliquer que c'était moi qui disais des bêtises, car je n'avais qu'à regarder dans un miroir pour voir un loin-voyant dépourvu d'art. »
Humbre s'éclaircit la gorge et se laissa aller contre le dossier de sa chaise. Il me fallut un petit moment pour me rendre compte qu'il était amusé et non agacé.
« Ce garnement est parfois d'une insolence, »
grommela-t-il. Mais derrière le mécontentement, je sentis de l'affection et de la fierté devant l'esprit rebelle de son prince. J'éprouvais moi aussi de l'amusement, mais pour un autre motif. À l'âge de Devoir, il aurait suffi d'une répartie beaucoup plus modérée de ma part pour me valoir une solide taloche. Le caractère du vieil homme s'était adouci. J'espérais que son indulgence n'allait pas gâter le jeune adolescent. Il faut à un prince une discipline plus stricte qu'à tout autre garçon. Je décidai d'introduire une digression dans le compte-rendu d'Imbre. « Ainsi vous avez commencé à lui enseigner l'art, » fis-je, d'un ton parfaitement neutre.
« Disons plutôt que j'ai commencé à essayer, » répondit-il d'un ton bougon,
où je sentis une certaine concession aux arguments que je lui avais opposés lors de sa visite chez moi.
« Je me fais l'impression d'une taupe qui explique à une chouette ce qu'est le soleil. » J'étudie les manuscrits, Fitz, je me livre aux méditations et aux exercices qu'ils prônent, et de fait, il m'arrive parfois de ressentir quelque chose. Mais j'ignore s'il s'agit de ce que je dois ressentir, ou bien d'un tour de l'imagination d'un vieillard trop plein d'espoir.
Je vous l'ai dit. Je m'efforçais de parler avec bienveillance. L'art ne s'apprend pas et ne s'enseigne pas à partir d'un manuscrit. La méditation peut vous y préparer, mais il vous faut un guide pour vous montrer ce que c'est.
C'est pourquoi je t'ai fait mander, répondit-il avec trop de hâte. Parce que tu es l'unique personne qui soit non seulement capable de former correctement le prince à l'art, mais aussi de se servir de cette magie pour le retrouver.
Je soupirai. Imbre, ce n'est pas ainsi que l'art opère. Il...
Dis plutôt qu'on ne t'a jamais appris à l'employer de cette façon. C'est dans les manuscrits, Fitz. On y affirme que si deux personnes ont été liées par l'art, elles peuvent se retrouver mutuellement par ce moyen le cas échéant. Toutes mes tentatives pour localiser le prince par d'autres méthodes ont échoué. On a lancé des chiens sur sa piste. Ils ont bien couru tout le début de la matinée, Et puis, ils se sont mis à tourner en rond en gémissant, complètement égarés. Mes meilleurs espions n'ont rien à me rapporter. Les pots de vin n'ont aucun résultat.
L'art
est notre dernier espoir, je te le répète.
Il avait piqué ma curiosité, mais je la fis taire impitoyablement. Je n'avais aucune envie d'étudier ces manuscrits. Même si vos textes prétendent que c'est réalisable, vous reconnaissez que cela ne peut se produire qu'entre deux personnes préalablement liées par l'art. Or, le prince et moi ne partageons nul.
Je crois que si.
Imbre peut prendre un certain ton de voix qui réduit instantanément son interlocuteur au silence. Ce ton prévient la personne qu'il en sait sur elle beaucoup plus long qu'elle ne l'imagine et l'avertit qu'elle doit se garder de tout mensonge. Ce truc fonctionnait très efficacement sur moi quand j'étais petit, et je restais le souffle court en constatant qu'il n'avait rien perdu de son efficacité à présent que j'étais adulte. Je repris lentement ma respiration, mais Imbre anticipa ma question.
Ce sont certains rêves que le prince m'a rapportés qui ont tout d'abord éveillé mes soupçons. Tout a commencé par un songe qui revenait de temps en temps pendant sa petite enfance. Il voyait un loup en train de plaquer une biche au sol et un homme qui se précipitait pour achever la proie en l'égorgeant. Dans son esprit, il était l'homme, mais il le voyait aussi de l'extérieur. Ce premier rêve l'a fort excité. Il n'a guère parlé d'autre chose pendant un jour et demi, et il le racontait comme s'il en avait été l'acteur.
Il s'interrompit un instant.
Devoir n'avait que 5 ans alors. Les détails qu'il décrivait dépassaient de loin son expérience.
Je gardai le silence.
Des années se sont écoulées avant qu'il fasse de nouveau un rêve de ce genre. Je devrais peut-être dire plutôt que des années se sont écoulées avant qu'il m'en fasse part. Il voyait un homme qui traversait une rivière aguée. Le flot menaçait de l'emporter, mais il parvenait finalement à l'autre berge. Il était trop trempé et il avait trop froid pour allumer un feu. Aussi cherchait-il refuge sous le tronc d'un arbre abattu. Et un loup venait se coucher contre lui pour le réchauffer. Là encore, le prince m'a raconté ce rêve comme s'il l'avait vécu lui-même. « Je l'adore, » m'a-t-il dit. « J'ai l'impression d'avoir une autre existence, une existence où je me trouve loin d'ici et où je ne suis pas obligé d'être prince, une existence qui n'est qu'à moi, où j'ai un ami aussi proche de moi que ma propre peau. » C'est alors que j'ai commencé à le soupçonner d'avoir eu d'autres rêves d'art, mais de ne pas m'en avoir parlé.
Il se tut à nouveau, et cette fois, je dus répondre. J'inspirai longuement. Si j'ai partagé ces instants de ma vie avec le prince, je n'en ai pas eu conscience. Cependant, les événements décrits sont arrivés, en effet. Je me demandais soudain quels autres épisodes de mon existence il avait vécu, en me rappelant Vérité, qui me reprochait de ne pas tenir convenablement la bride à mes pensées. Si bien que mes rêves et mes expériences empiétaient parfois sur les siens. Je songeais au séjour d'Astérie chez moi, et j'espérais ardemment ne pas rougir. Il y avait bien longtemps que je ne prenais plus la peine de dresser mes murailles d'art autour de mon esprit, mais, à l'évidence, c'était une habitude qu'il me fallait retrouver. Cette réflexion en entraîna une autre. Manifestement, mon don pour l'art ne s'était pas détérioré autant que je le croyais. Et une brusque jubilation m'envahit à cette idée. Puis, je me dis avec une ironie amère que c'était sans doute la même qui s'emparait de l'ivrogne découvrant une bouteille pleine oubliée sous le lit.
« Et toi, as-tu partagé des moments de la vie du prince ?»
demanda Imbre, me pressant de poursuivre. « Peut-être. J'en ai bien l'impression. Je fais souvent des songes très nets et rêver d'être un adolescent habitant Castelserre n'est pas étranger à mon expérience. Mais je repris mon souffle et me forçai à continuer. L'important, en l'occurrence, c'est la Marguette Imbre. Depuis combien de temps le prince l'a-t-il? Croyez-vous qu'il a le vif? Est-il lié à cet animal? Je me faisais l'effet d'un menteur à poser ainsi des questions dont je connaissais les réponses. Dans le même temps, Je passai rapidement en revue les rêves des 15 dernières années dont je me souvenais, en retenant ceux qui présentaient une clarté si particulière qu'elle perdurait après l'éveil. Certains auraient pu évoquer des épisodes de l'existence du prince, d'autres... Je butais sur le souvenir du songe fiévreux où j'avais vu Burik. Orti aussi. J'aurais partagé un rêve avec Orti. Cet éclairage nouveau modifia mon appréhension de l'expérience. Je n'avais pas seulement assisté à un bref épisode du point de vue d'Orti, j'avais co-artisé avec elle. Il était possible que, comme dans le cas de Devoir, le partage d'art eût été à double sens. Dès lors, ce que je chérissais comme l'aperçu d'un instant de la vie de ma fille, comme une petite fenêtre entr'ouverte sur Molly et Burik, devenait la révélation de la vulnérabilité d'Orti face à mon incurie. J'écartais cette pensée inconfortable et renforçais mes remparts mentaux. Comment avais-je pu faire preuve d'une telle imprudence? Combien de mes secrets avais-je dévoilé aux êtres qui risquaient le plus d'en souffrir?
Comment veux-tu que je sache si le petit a le vif?
Demanda Imbre d'un ton agacé.
J'ignorais que tu l'avais avant que tu me le dises. Et même alors, je n'ai pas compris tout de suite de quoi tu parlais.
Je me sentis soudain trop las, trop épuisé pour mentir davantage. Qui cherchais-je à protéger par des faux semblants? J'étais bien placé pour savoir que le mensonge ne constitue pas une défense durable, qu'il finit par devenir le plus gros défaut d'une cuirasse. Je pense qu'il l'a, et d'après les rêves que j'ai faits, il est lié à la Marguette. Je vis alors Imbre se flétrir devant moi. Il secoua la tête sans répondre, puis nous resservit de l'eau de vie. Je vidai ma coupe d'un trait tandis qu'il buvait la sienne à petites gorgées, l'air pensif. Enfin, il déclara.
J'ai horreur de l'ironie. C'est une chaîne qui attache indéfectiblement nos rêves à nos peurs. J'espérais que le petit et toi étaient reliés par des songes communs et que tu pourrais te servir de ce lien pour le retrouver par l'entremise de l'art. Et j'apprends maintenant que c'est bien le cas, mais aussi que ma plus grande crainte pour Devoir se révèle fondée. Le vif. Ah, Fitz. Que ne puis-je remonter le temps et faire que mes inquiétudes ne soient que chimères?
Qui lui a donné la Marguette?
Un noble, c'était un cadeau. Il en reçoit d'ailleurs beaucoup trop, car tous les courtisans s'efforcent de gagner ses faveurs. Ketriken, elle, essaye d'écarter les présents les plus magnifiques. Elle redoute que le petit ne finisse gâté. Mais en l'occurrence, ce n'était qu'une petite chatte de chasse. Et voici qu'il s'agit peut-être précisément du cadeau qui va le gâter pour toute sa vie.
« Qui la lui a donné ? » dis-je d'un ton insistant.
« Il va falloir que je cherche dans mes notes,
avoua-t-il. Il me lança un regard sombre.
« La mémoire d'un vieillard n'est pas aussi vive que celle d'un jeune homme. Je fais ce que je peux, Fitz. »
Et son expression de reproche en disait long. « Si j'étais revenu à Castelserre au lieu de passer 15 ans en ermite, si j'avais repris ma place auprès de lui, j'aurais aujourd'hui les réponses aux questions les plus vitales. Cette idée en amena une autre. Et votre nouvel apprenti, que sait-il de l'affaire? Il me regarda d'un air songeur, puis dit enfin
« Il n'est pas prêt pour un travail de ce genre. »
Je soutins son regard. Ne serait-il pas en train de se remettre d'un éclair, disons, qui se serait abattu sur lui d'un ciel sans nuage, par hasard? Un éclair qui aurait fait exploser un entrepôt désaffecté. Il scia, mais conserva un visage impassible, et négligeant ma pique, il reprit d'une voix unie.
« Non, Fitz Chevalerie, ce travail te revient. Tu es le seul à posséder les aptitudes nécessaires. »
« Qu'attendez-vous de moi exactement ?» Ma question équivalait à une reddition. J'avais commencé par me hâter de répondre à son appel, et il savait à présent, tout comme moi, que je demeurais à ses ordres.
« J'attends que tu retrouves le prince, que tu nous le ramènes discrètement et plaises à Aïda, indemne. Tout cela, tant que mes excuses pour expliquer son absence restent crédibles. Rends-le-nous sain et sauf avant que la délégation outrilienne n'arrive pour officialiser ses fiançailles avec leur princesse. »
« C'est-à-dire dans combien de temps ?» Il haussa les épaules d'un air impuissant.
Cela dépend des vents, de l'état de la mer et de l'efficacité de ses rameurs. La princesse a déjà quitté les îles d'outre-mer. Un oiseau messager nous en a informé. La cérémonie est prévue pour la nouvelle lune. Si les représentants abordent avant cette date, je parviendrai peut-être à bricoler une explication selon laquelle il s'est retiré pour méditer et se préparer à l'importance de l'événement qui l'attend. Mais ce ne serait qu'un écran de fumée bien mince qui se dissiperait instantanément s'il n'apparaissait pas au moment protocolaire.
J'effectuai un rapide calcul mental. Ça laisse plus de 15 jours. C'est davantage qu'il n'en faut à un adolescent fugueur pour changer d'avis et rentrer chez lui. Humbre me lança un regard lugubre.
« Mais si le prince a été enlevé, que nous ignorons par qui et pourquoi, et que nous sachions encore moins comment le récupérer, 16 jours constituent un laps de temps bien court. »
J'enfouis un moment mon visage dans mes mains. Quand je levai les yeux de nouveau, mon vieux mentor me regardait toujours avec espoir, confiant que j'allais trouver une solution qui lui échappait. J'aurais voulu me sauver. J'aurais voulu ne rien savoir, mais c'était impossible. Je pris une longue inspiration pour me calmer, puis décidai de mettre de l'ordre dans les pensées d'Imbre, comme il m'avait appris à discipliner les miennes. « Il me faut des renseignements, » déclarai-je. « Faites comme si j'ignorais tout de la situation, car c'est très probablement le cas. En premier lieu, je dois savoir qui a donné cette chatte au prince, et aussi ce que cette personne pense du vif, ainsi que des fiançailles de devoir. » Agrandissez le cercle de l'enquête à partir de là. L'auteur du présent a-t-il des rivaux, des alliés? Qui sont-ils? Qui, à la cour, condamne le plus durement les vifiés? Qui s'oppose le plus clairement aux accordailles du prince? Qui y est favorable? Quels nobles ont été dernièrement accusés d'appartenir à une famille douée du vif? Qui aurait pu aider Devoir à s'enfuir s'il a bien fait une fugue? Et s'il a été victime d'un enlèvement, qui aurait été en position de l'organiser? Qui connaissait ses habitudes nocturnes? Chaque question en entraînait une autre, et pourtant, devant leur flot grossissant, Imbre paraissait retrouver peu à peu sa stabilité. C'était là des interrogations auxquelles il était en mesure de trouver réponse, et cette assurance renforçait sa conviction qu'ensemble, nous parviendrions peut-être à remporter la partie. Je m'interrompis pour reprendre mon souffle. Il en profita pour glisser.
« Il faut encore que je te relate les événements des derniers jours. » Cependant, tu oublies, ce me semble, que l'art peut éventuellement nous épargner des heures de palabres. Je vais te soumettre les manuscrits. Nous verrons bien si leurs explications te paraissent plus claires qu'à moi.
À ces mots, je parcourus la pièce du regard, mais Imbre secoua la tête.
Non, je ne fais pas venir le prince ici. Cette partie du château lui demeure cachée. Je conserve les manuscrits dans l'ancienne tour de vérité, et c'est là que je donne ces leçons aux petits. Je veille à ce que le bureau soit toujours fermé à clé, et un garde de confiance reste devant sa porte jour et nuit.
Comment vais-je y pénétrer dans ce cas? Il me regarda, la tête penchée.
Un passage y mène à partir d'ici. Il est étroit et tortueux, et il comporte de nombreux escaliers, mais tu es jeune. L'exercice n'aura rien d'insurmontable. Finis de manger, et je t'indiquerai le chemin.